Il est 11h30 Infomag avec Jean-François Baudin.
Christian Théin va-t-il revenir en Calédonie? Son contrôle judiciaire a été assoupli. Le sujet devrait faire débat. Face aux difficultés budgétaires, il faut que les collectivités travaillent ensemble. Pascal Vittori, le président de l'Association française des maires, était notre invité ce matin. Il y a une semaine, le collège de Magenta devenait le collège Jean Lec. Aujourd'hui, le collège de Portefer est devenu le collège François Olivaux. La cérémonie de dénomination a eu lieu ce matin. À l'étranger, Donald Trump propose un plan de paix pour Gaza et se veut optimiste sur sa mise en œuvre. Israël l'approuve. Les détails dans ce journal. En métropole, Sébastien Lecornu consulte toujours, mais les oppositions lui demandent maintenant de préciser ce qu'il veut pour le budget 2026. La censure est toujours en jeu. En football, le début de la Coupe du Monde des moins de 20 ans au Chili, à laquelle participent les Calédoniens. À la mi-temps de leur premier match, ils étaient menés 7-0 par les États-Unis. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui se prolongera avec le magazine Citoyen comme tous les mardis. Bonjour Lionel Sabot.
Bonjour Jean-François.
On y parlera sport scolaire dans le premier degré avec l'USEP.
Effectivement, on a souvent, quand on parle de sport scolaire, tendance à penser à l'UNSS que l'on connaît bien. On va s'intéresser à la petite sœur. L'USEP, c'est l'Union sportive de l'enseignement du premier degré de la Nouvelle-Calédonie qui fête ses 40 ans en organisant un relais à travers tout le territoire. On en parle tout à l'heure, juste après votre journal, avec Yolande Verlaguet, qui est la présidente de l'USEP, avec Zuni Gardavaccio, qui est agent de développement, avec Gilles-Emmanuel Nouveau, qui est enseignant à l'école Gustave Klein de Coutiot, qui est membre du comité directeur de l'USEP. Puis nous serons également avec un élève, Edam Sam, élève de CM2 à l'école Gustave Klein. L'USEP en question, c'est juste après votre journal.
Christian Théin et les commanditaires présumés de la CCAT pourraient revenir en Nouvelle-Calédonie. Les juges viennent d'assouplir leur contrôle judiciaire, selon leurs avocats. Après être sortis de détention provisoire en juin, les cadres de la CCAT restent mis en examen, mais vont pouvoir rentrer en Nouvelle-Calédonie, Nicolas Legrand.
Oui, la justice enquête toujours sur les commanditaires présumés des violences insurrectionnelles de mai 2024. Je rappelle que le dossier a été dépaysé à Paris, mis en examen notamment pour association de malfaiteurs en préparation d'un crime, tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ils n'avaient pas le droit d'entrer en contact les uns avec les autres, ni même de rentrer en Nouvelle-Calédonie. Et c'est cette dernière restriction liée au contrôle judiciaire qui a été levée par les juges la semaine dernière. Plus précisément, le 24 septembre, hasard du calendrier pour cette décision qui fait vivement réagir. Une pétition a d'ailleurs été mise en ligne ce matin sur change.org pour s'opposer au retour de Christian Théin en Nouvelle-Calédonie dans les conditions actuelles. Lancée par le CCCT, le collectif citoyen contre le retour de Christian Théin, elle a recueilli 1456 signatures en seulement 3 heures. Pour eux, le retour du leader de la CCAT, élu depuis président du FLNKS, mettrait en péril la paix et l'avenir de notre territoire. Sur sa page Facebook, le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf, écrit que Christian Théin, c'est un traumatisme. Chaque actualité le concernant hérisse à juste titre les poils de ses victimes. Il savait ce qu'il faisait, l'indépendance par la rue, par la force, par la manipulation de masse. Je suis confiant, lui et ses acolytes paieront. On ne peut pas détruire un pays et s'en tirer à bon compte, écrit-il, avant de faire le lien avec l'actualité nationale. Si Sarkozy prend 5 ans pour présomption d'association de malfaiteurs, on est en droit d'en attendre beaucoup de la justice. Concernant le meneur de l'insurrection, le député qui poursuit en attendant son procès, si cette même justice le fait revenir sur les lieux du crime, il pourra en profiter pour aller expliquer à ses plus fervents partisans pourquoi il était à Bougival et pourquoi il a donné son aval pour la signature de l'accord. Fin de citation.
Les finances des communes préoccupent les maires et le sujet a été au cœur d'un séminaire organisé la semaine dernière par le gouvernement avec les maires de Nouvelle-Calédonie. S'il y a des réunions régulières avec le gouvernement pour faire le point, ce séminaire a permis d'avoir des informations plus affinées sur les recettes dont les communes vont pouvoir ou non bénéficier cette année. Pascal Vittori, le maire de Bouloux-Paris et président de l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie, participait à ce séminaire dont il est venu nous parler ce matin. Il a confirmé les difficultés budgétaires rencontrées par les communes depuis les émeutes.
Dès 2024, en fait, hein, juste après les événements du mois de mai, au mois de juin-juillet, les communes ont commencé à réduire leur train de vie. Hein. Certaines ont réduit le nombre d'heures travaillées. On n'a pas remplacé les départs à la retraite. Bien sûr, on n'a pas embauché. Beaucoup ont supprimé des prestations. Voilà, toutes les communes ont réduit la voilure, ce qui a permis de tenir jusque-là. Mais c'est vrai que celles qui avaient un petit matelas l'ont mangé en 2024. Elles n'ont quelquefois pas pu rendre tous les services. Certaines communes ont arrêté, par exemple, le ramassage scolaire au début décembre. D'autres communes, en 2025, ont arrêté la cantine, le ramassage scolaire, etc., etc. Donc tout ça, ça coûte en fait aux services publics et aux familles qui n'ont plus les services qu'on pouvait leur donner avant.
Face à ces difficultés, l'aide de l'État est donc indispensable. Certaines communes ont aussi reçu de l'argent des assurances. Mais elles doivent faire face aussi à la baisse des recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie. Moins 10% avait annoncé le gouvernement en début d'année, avant de rajouter 10% pour faire moins 20%. Ce sera finalement moins 13%. Ce séminaire a aussi permis de faire le point sur les 2,4 milliards compris dans la deuxième tranche du PGE versée par l'État. 2,4 milliards fléchés vers les communes. Il y a encore du flou, nous a dit Pascal Vittori.
Là où il y a une ambiguïté, si vous voulez, et ce qui a déçu les maires, c'est que l'annonce du gouvernement, l'annonce de l'État, c'était 2,4 milliards aux communes, directement. Et puis, à la fois, on nous a annoncé que finalement, seul un tiers serait versé directement aux communes. Un tiers, c'est 800 millions. Et les deux tiers restants seraient négociés en GTPE.
Groupe de travail des présidents d'exécutif.
Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a déjà obtenu 800 millions sur 2,4 milliards. Et pour le reste, il va falloir le négocier avec le gouvernement et les provinces. Alors, pourquoi l'État a fait ça ? Eh bien, c'est parce que quand il a demandé aux communes quels étaient leurs besoins en matière de cantine, de transport scolaire et d'aide sociale, il s'est aperçu d'abord que les situations étaient très différentes en fonction des communes. Elles ne prenaient pas en charge les choses de la même façon, pas les mêmes montants. Les organisations sont très différentes, donc c'était difficile de faire un partage égal. Et puis, l'État s'est aperçu que, pour ce qui est de l'enseignement privé, il était pris en charge actuellement par les provinces. Et que donc, il fallait aussi, pour pouvoir financer cet enseignement privé, réserver une partie des fonds aux provinces.
La situation budgétaire des communes est donc difficile, mais c'est aussi le cas, on vient de le comprendre, des autres collectivités. Et c'est pour cela qu'il faut travailler ensemble, estime Pascal Vittori.
Non seulement il faut que les communes travaillent ensemble, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec Florentin Dedane, le président de l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie, mais il faut aussi qu'on continue à travailler avec l'État. Donc j'ai demandé un rendez-vous à Claire Durieux là, pour le bureau de l'Association française des maires pour lui faire passer donc, tous les besoins des communes. Et il faut qu'on continue à travailler dans les séminaires du gouvernement. Il faut qu'on continue à travailler avec la province parce que je ne pense pas que dans la période qu'on vit actuellement, il soit utile et intéressant de se diviser entre les différentes collectivités de Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'il faut que tout le monde travaille dans le même sens pour sortir la Nouvelle-Calédonie de la crise.
Ouais, Pascal Vittori, maire de Boulou-Paris et président de l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie, était donc notre invité ce matin. Une interview à retrouver sur notre site internet rrb.nc. Dans l'actualité économique toujours, mais dans un autre registre, revenons sur la période de soldes qui s'est achevée dimanche dernier. Après un mois de démarques souvent très importantes et dans un contexte économique plus qu'incertain, c'est l'heure du bilan pour les commerçants. Les soldes ont bien marché, peut-être même trop bien, explique Bruno Castet, membre du bureau du syndicat des commerçants de Nouvelle-Calédonie.
Le bilan qu'on tire de ces soldes, c'est que les gens ont un pouvoir d'achat très limité aujourd'hui et se sont rués sur tous les produits soldés. Il est vrai que les commerçants avaient besoin de rentrer de la trésorerie. Il faut savoir que depuis le début de l'année, on a une baisse de chiffre d'affaires entre 20 et 30% par rapport à l'année précédente. Les prix proposés pendant les soldes étaient très agressifs. C'était en général du moins 50%. Et il est vrai que tout le monde en a profité. Les consommateurs en avaient besoin, les budgets sont serrés. Et donc ça a marché beaucoup plus fort que d'habitude. C'est-à-dire qu'on a vendu pratiquement que des produits soldés pendant les soldes. Donc ça impacte malheureusement la marge qui reste bénéficiaire pour les commerçants, puisque en fait au final on fait une période de solde qui reste déficitaire en termes de rentabilité, mais qui nous permet quand même d'écouler des stocks dont on a bien besoin. On est bien content d'avoir fait le plein dans nos magasins pendant cette période, bien content d'avoir des clients contents d'acheter des produits pas chers. Bon bah ça fait du bien au cœur quand même, on est là aussi pour que ça se passe bien avec toute notre clientèle, mais c'est très difficile économiquement.
La prochaine opération commerciale, ce sera à la fin du mois de novembre avec le Black Friday. Il aura lieu cette année du vendredi 28 novembre au dimanche 30 novembre. En bref, avant une première pause dans ce journal, les faits divers avec l'interpellation hier de deux mineurs à Point-d'Imier. Interpellation après une série de 8 cambriolages dans la commune depuis le 10 août dernier. Les deux jeunes ont en partie reconnu les faits et leur audition se poursuit en ce moment. Et puis notez que la FPLS change de nom et élargit son champ d'action. La Fédération des professionnels libéraux de santé devient la Fédération des professionnels de la santé. Elle regroupe désormais les professionnels libéraux et les salariés. La FPLS compte aujourd'hui plus de 400 adhérents réunis en 10 syndicats. Il est 11h40, une première pause dans ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et le collège de Porte de Fer qui s'appelle désormais le collège Olivo.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Société Générale, partenaire majeur du Top 14, est à vos côtés avec passion et engagement sur le terrain comme dans la vie. Particuliers, professionnels, associations, nous vous accompagnons dans tous vos projets. Ensemble, dessinons votre avenir. Société Générale Calédonienne de Banque, 44 rue de l'Alma, BPG2, 98 848, Nouméa Sedex.
Douleur articulaire ou musculaire, mal de dos, mal de genoux, le roller pur essentiel articulation et muscles réduit immédiatement et durablement la douleur grâce à sa bille massante et ses 14 huiles essentielles. C'est cliniquement prouvé. Dispositif médical en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Et pour la préparation et la récupération musculaire, découvrez l'huile de massage Arnica Golteri pur essentiel avant et après l'effort.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et l'ancien collège des Portes de Fer s'appelle désormais collège François Oliveau. La cérémonie de dénomination avait lieu ce matin en présence de sa famille et de ses proches, mais aussi du deuxième vice-président de la province, Eugene Brial, et du vice-recteur Didier Vindatis, Elisabeth Noir.
Les prises de parole ont rendu hommage aux qualités et à la carrière de François Oliveau, deux carrières en une, celle de professeur et de directeur d'établissement, mais aussi celle de chansonnier et d'humoriste. Une double identité qui a conduit naturellement a donné son nom à ce collège des Portes de Fer, explique Gilles Brial.
On a voulu rendre hommage à François Oliveau, qui était d'abord un enseignant, puis un principal de collège, mais qui était aussi un humoriste bien connu des Calédoniens, qui, à travers beaucoup de chansons drôles, parlait de l'identité calédonienne, mais également de nos problèmes de société. Quelqu'un qui avait la valeur travail comme quelque chose d'important. Donc c'est toutes ces valeurs qu'on a voulu donner aux élèves en expliquant qui était François Oliveau, pourquoi on a choisi ce nom-là. Et je trouve que c'est adapté au collège de Portes de Fer. Nous, on appelle ça les Smarties, nos élèves, parce qu'on retrouve toutes les couleurs, tous les goûts. C'est toute la Nouvelle-Calédonie qui est dans ce collège. Et donc, il peut avoir deux belles ambitions. La première, la réussite scolaire. C'est le mérite de l'école calédonienne, d'être un ascenseur social et un extraordinaire laboratoire d'apprendre à construire ensemble, le vivre ensemble calédonien et son identité calédonienne. Donc, je trouvais que ce collège était bien adapté à François Oliveau. C'est un bel hommage qu'on lui rend à lui. Et à travers lui, tous les enseignants, les vieux enseignants calédoniens qui ont porté l'éducation calédonienne avec peu de moyens, mais à bout de bras pendant des années.
Un professeur, un directeur d'établissement, un chansonnier, mais François Oliveau était aussi un père de famille. Son épouse et de nombreux membres de la famille étaient présents pour participer à cette cérémonie de dénomination, comme sa fille Françoise, très émue de l'hommage rendu à son père.
Surtout pour papa, la reconnaissance de François Oliveau, d'un Calédonien avant tout, et de quelqu'un, oui, qui a donné sa vie pour l'enseignement, et puis aussi, bien sûr, après, pour les Calédoniens.
Cette cérémonie était chargée d'émotions pour vous ?
Beaucoup, très très forte, oui. Je voulais que les enfants, les jeunes qui étaient là comprennent que c'était la vie de papa, que nous, on ne l'a pas beaucoup vu, parce qu'il était souvent au collège, dans tous les collèges, et que nous, en tant qu'enfants, ça a été très dur pour nous, parce que mon père était très sévère. Pendant 10 ans, il a enseigné à Pointe-d'Imier, mais il était pas que enseignant, parce qu'à l'époque, tout le monde n'avait pas de voiture. Donc papa, il s'occupait de l'école, du club de foot. Donc il allait récupérer dans les tribus, c'est comme ça qu'il s'est fait appeler Douy François, parce qu'il allait récupérer les gens pour qu'ils puissent jouer au foot, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de télé. Hein.
Les 600 élèves du collège étaient associés à cette cérémonie, avec notamment des chants, des danses et la lecture d'un texte écrit par François Oliveau. Il faut rappeler que François Oliveau avait notamment dirigé le collège de Rivière-Salée, un collège détruit lors des émeutes de 2024 et dont les élèves sont désormais inscrits dans ce collège des Portes de Fer, désormais dénommé collège François Oliveau. Une dénomination qui nous fait très plaisir à RRB. François Oliveau, vous le savez, était un ami de la radio. Il a participé à de nombreuses émissions et nous diffusons régulièrement ses chansons et ses pastiches qui traduisent si bien l'identité particulière de la Nouvelle-Calédonie.
À Radio Rythme Bleu, 11h44.
Les dugongs, encore trop souvent victimes de braconnage, si l'on en croit les chiffres, il reste 400 dugongs en Nouvelle-Calédonie. Pour sensibiliser les Calédoniens à leur protection, plusieurs acteurs se sont mobilisés et lancent une campagne de communication pour alerter sur les risques d'une disparition de l'espèce. Marco Rémus est le responsable du bureau du WWF en Nouvelle-Calédonie.
Cette campagne qui est aujourd'hui lancée, elle a vraiment vocation à remettre l'enjeu de préservation des dugongs sur le devant de la scène comme un enjeu vraiment prioritaire et critique aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une véritable prise de conscience collective sur l'ensemble des Calédoniens, que cette espèce est aujourd'hui en danger et que si on n'agit pas très très rapidement, on ne sera plus en capacité de la sauver. Maintenant, il faut que, parallèlement à ces campagnes-là, qui aujourd'hui sont des campagnes assez ambitieuses, on espère toucher beaucoup de monde à travers ça, qu'on arrive à mettre en place aussi deux actions qui vont permettre notamment de faire de la surveillance, qui vont permettre aussi de faire de la répression. Finalement aussi s'appuyer sur des nouvelles technologies qui nous pourraient permettre par exemple de réduire le nombre de prises de dugong dans les filets de pêche, qui pourraient permettre de réduire les collisions avec les bateaux.
Et pour contribuer à la protection de cette espèce emblématique du lagon calédonien, la province sud a mis en place un réseau d'alerte baptisé Réseau d'échouage. Laurence Vachier est gestionnaire des aires marines protégées à la province sud.
Un réseau d'échouage animé par la province. On a des associations, on a des vétos, on a toutes les personnes qui veulent contribuer en fait. Donc dès que quelqu'un signale, le plus proche, le dispo, intervient pour aller trouver l'animal parce que des fois il est caché. Une prise en charge qui est beaucoup plus rapide. Trouver quelqu'un rapidement aussi pour l'amener à l'aquarium pour avoir des soins rapidement si l'animal est sauvable. S'il n'est pas mort, donc ça fait une prise en charge plus rapide, donc plus de chances de survie pour l'animal s'il est trouvé à temps, et surtout démultiplier l'effort sur le territoire de la province, mais pas que. C'est le numéro 16, donc c'est le numéro du COS, qui est vraiment la porte d'entrée pour n'importe quel échouage, et le COS ensuite renvoie sur le réseau d'échouage pour trouver les personnes disponibles et qui peuvent intervenir au plus vite.
Et voilà, si vous souhaitez obtenir plus d'informations, voire soutenir cette cause, vous pouvez contacter l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité. 11h46, une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde, où Donald Trump présente un plan de paix pour Gaza. Il a bon espoir de le voir aboutir.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Le réseau Bienvenue à la ferme de Nouvelle-Calédonie, porté par la Chambre d'agriculture et de la pêche, organise son marché paysan samedi 4 octobre 2025 au marché de la Foix de 8h à 13h. Sur place, un grand marché de produits locaux, restauration, mini-ferme, tonte de moutons, épluchage de pommes de terre et de nombreuses autres animations.
Fais appel à tes collègues préférés et participe au CIPAC Challenge. Du 6 au 20 octobre, participez au plus grand challenge sportif inter-entreprise de Calédonie. Vous avez 15 jours pour bouger et faire un maximum de pas. Chaque jour, un défi sera relevé sur l'application pour gagner encore plus de points. Fais gagner ton équipe, ton entreprise ou même ton association pour remporter un des nombreux lots. Inscrivez-vous dès maintenant sur la page Facebook CIPAC Challenge. Le CIPAC Challenge, ensemble, on va plus loin.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité à l'étranger, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Avec un espoir de fin de conflit à Gaza, c'est du moins la conviction du président américain qui pense qu'une résolution de ce conflit est très très proche. Donald Trump a reçu le premier ministre israélien à Washington, auquel il a présenté un plan de paix en 20 points, plan de paix accepté par Israël, mais aussi par les pays arabes proches du Hamas, qui lui n'a pas fait part de ses intentions. Les conditions de ce plan ont été dévoilées peu après la rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Rémi Almalvi est le correspondant d'Europe 1 à Washington.
Le plan prévoit un cessez-le-feu immédiat dès lors que les deux parties, Israël et le Hamas, l'auront accepté. Comme vous l'avez dit, Israël l'a déjà accepté par la voix de son premier ministre, mais Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont prévenu, si le Hamas refuse de signer, Israël finira le travail avec le soutien total des États-Unis.
Si le Hamas rejette ce deal, ce qui est toujours possible alors que tous les autres l'ont accepté, eh bien dans ce cas, Netanyahou et Israël auront mon soutien total pour faire ce qui devra être fait.
L'accord exige la démilitarisation complète du groupe islamiste. Benjamin Netanyahou a également précisé que l'État hébreu conserverait la responsabilité de la sécurité à Gaza et que l'autorité palestinienne n'aurait aucun rôle à jouer sans un changement radical. Si le plan est accepté, Israël devrait se retirer de Gaza par étapes, a précisé Donald Trump, le président américain qui a annoncé qu'il présidera un comité spécialement créé pour gérer la transition du territoire vers la paix. Personne ne sera forcé de quitter Gaza, a aussi promis Donald Trump, précisant également que les États-Unis travailleront avec des partenaires arabes et internationaux pour mettre en place une force internationale de stabilisation qui sera immédiatement déployée à Gaza. Force qui devrait fournir un soutien à des forces de police palestiniennes approuvées et aura des consultations avec la Jordanie et l'Égypte.
L'actualité en métropole, Sébastien Lecornu continue de consulter pour la préparation du budget 2026. Le Premier ministre n'a donné pour l'instant que peu d'informations sur ses intentions, si ce n'est qu'il souhaite bâtir ce budget avec les forces politiques du Parlement pour éviter la censure. Il a pour l'instant fermé la porte à la taxe Zucman et au retour de l'ISF et il s'est dit aussi ouvert à des baisses d'impôts, notamment en matière de travail. Il faut maintenant qu'il fasse part de ses intentions précises, a déclaré le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, qui s'entretiendra vendredi midi avec Sébastien Lecornu pour une rencontre sans doute décisive.
Moi, je voudrais la copie complète complète. Pour l'instant, on a bien compris ce qu'il ne voulait pas, on n'a pas très bien compris ce qu'il était prêt à faire. Et donc, ce que je veux, vendredi, c'est de savoir exactement ce qu'il sera demandé aux Françaises et aux Français et quel sera le rendement de toutes les mesures qu'il entend présenter face aux nôtres. Si rien ne change, eh bien, le résultat est déjà connu. Il y aura une censure et donc ce gouvernement tombera et il y aura vraisemblablement une dissolution à laquelle nous sommes prêts.
Le Parti socialiste met donc la pression sur le Premier ministre, tout comme le Rassemblement national, pour que Sébastien Lecornu précise ses intentions. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Les oppositions, comme son propre camp, lui reprochent le flou entretenu autour du budget. Alors il a certes livré quelques indices en fin de semaine dernière, en fermant notamment la porte à la taxe Zucman ou au retour de l'ISF. Mais pour le reste, tout reste à faire. Une stratégie assumée par Matignon, qui insiste sur le fait que ce budget doit être construit par le Parlement et que quoi qu'il advienne, il ne pourra convenir à 100% à toutes les formations politiques. Reste que c'est bien à Sébastien Lecornu d'établir une ébauche de budget. Il a pour cela déjeuné à nouveau avec les chefs de parti du socle commun à la mi-journée. Il rencontrera demain Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, puis Olivier Faure ce vendredi, le premier secrétaire du PS qui demande au Premier ministre une copie complète du futur budget lors de leur prochaine rencontre. Dans le cas contraire, le PS promet de le censurer avant même la discussion à l'Assemblée. Preuve que la pression s'accentue sur Sébastien Lecornu, menacé également par le RN, au point que plusieurs élus anticipent déjà une censure votée avant la fin de l'année.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à notre question d'hier. 75% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le Parlement va pouvoir adopter dans les temps la proposition de loi organique qui reporte les élections en 2026. Ils sont 25% à penser que ce ne sera pas le cas. Voici notre question du jour. Y a-t-il selon vous un problème de l'indépendance de la justice en France ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Toujours en métropole, l'ingérence étrangère se confirme dans l'affaire des têtes de cochon déposées devant des mosquées dans la région parisienne il y a quelques jours. 11 personnes ont été interpellées en Serbie. Ce groupe aurait aussi mené des actions en Allemagne avec des jets de peinture sur plusieurs synagogues et un restaurant juif. Le donneur d'ordre, qui serait aussi un Serbe, n'a lui pas été interpellé. Et puis c'était la nuit dernière pour nous en métropole, la journée du cœur, l'occasion de faire passer des messages de prévention des maladies cardiovasculaires, notamment auprès des femmes. Elles sont plus touchées que les hommes. En métropole, une femme meurt toutes les 7 minutes d'une maladie cardiovasculaire. Cela représente 73 000 décès, deux fois plus que les hommes. Et les signaux précurseurs ne sont pas les mêmes pour les deux sexes. Yasmina Katou pour Europe 1.
D'abord, il faut savoir reconnaître les symptômes d'un infarctus chez la femme. On parle souvent d'une douleur au bras gauche ou à la poitrine lors d'une crise cardiaque. Mais il y a des symptômes spécifiquement féminins que détaille Jérôme Lacotte, cardiologue à l'Institut cardiovasculaire Paris-Sud.
C'est souvent des douleurs qui sont plutôt dans le dos, une sensation de grande fatigue, des troubles digestifs.
Reconnaître ces symptômes permet un diagnostic et une prise en charge plus rapide qui évite les séquelles. Par ailleurs, il faut agir en amont et consulter un cardiologue avant même l'apparition d'un problème.
Il y a probablement trois périodes dans la vie d'une femme. Il faut savoir parler du cœur. C'est le début de la contraception. On sait qu'il y a des incidences entre la prise d'une contraception et des événements cardiovasculaires. La deuxième étape, c'est les grossesses. Et puis la troisième, la plus importante, c'est celle de la ménopause. C'est là où les œstrogènes protectrices vont disparaître.
L'adoption d'une hygiène de vie saine avec une diminution de la consommation du tabac ou le contrôle du poids favoriserait aussi la baisse de la mortalité cardiovasculaire chez les femmes.
À 11h53, la dernière pause de ce journal. Dans un instant, ce sera l'actualité sportive et ensuite vous retrouverez le magazine citoyen.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite ? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
La Ligue calédonienne de badminton vous invite ce week-end à l'Arène du Sud pour son championnat territorial jeune. Les matchs auront lieu de 8h à 19h les samedis et dimanches. Rendez-vous à l'Arène du Sud, l'entrée est gratuite.
Vous êtes une entreprise, association ou collectivité ? Vous réduisez, réutilisez, recyclez les déchets ou vous souhaitez vous lancer dans cette démarche ? La Province Sud et l'ADEME peuvent financer votre projet. Pour cela, il suffit de répondre à l'appel à projet Économie Circulaire avant le 14 novembre. Rendez-vous sur le site province-sud.nc. La Province Sud, agir pour l'avenir.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va commencer cette page avec du football. Là, c'était le coup d'envoi de la sélection pour la sélection de Nouvelle-Calédonie, pardon, des moins de 20 ans de la Coupe du Monde. Ça se passe au Chili, Lionel.
Oui, effectivement, les Cagous qui affrontaient les États-Unis pour leur entrée dans la compétition, dans cette Coupe du Monde des moins de 20 ans. Le match vient de se terminer à l'instant même et les Calédoniens, sans surprise, se sont inclinés. Une défaite, somme toute, un peu lourde hein, pour les joueurs de Pierre Wadjoka qui se sont inclinés à 9 buts à 1. On va noter que c'est Antoine Simon, joueur de l'AS Magenta, qui a inscrit le but calédonien à la 71e minute de jeu. C'est le premier but en Coupe du Monde pour les U20. On se rappelle qu'à la Coupe du Monde des moins de 17 ans, c'était en 2017, la Calédonie avait inscrit 2 buts dans la compétition. Donc l'équipe de Calédonie qui s'incline face aux États-Unis à 9 buts à 1 dans l'autre match du groupe de la Nouvelle-Calédonie. L'équipe de France s'est imposée 2 buts à 1 sur l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui sera le prochain adversaire des Cagous.
Allez, les autres, d'autres Calédoniens sont engagés dans une compétition mondiale. Les athlètes handisport, ils sont à New Delhi en Inde pour les championnats du monde. Hier soir, Pierre Ferbank a pris la 7e place en finale du 400 mètres fauteuil. Quant à Félicien Siapo, il s'est qualifié pour la finale du 100 mètres, finale à suivre aujourd'hui. On revient et on termine d'ailleurs par du football avec demain matin pour nous le coup d'envoi de la deuxième journée de la première phase de la Ligue des Champions et un club français sera sur les pelouses.
Oui, il s'agit de l'Olympique de Marseille qui accueillera demain matin au Vélodrome les Néerlandais de l'Ajax d'Amsterdam. Les deux clubs ont vécu un début de parcours européen difficile. Lors de la première journée, les Phocéens, on s'en souvient, s'étaient inclinés 2 buts à 1 sur la pelouse du Real Madrid. Début encore plus compliqué pour l'Ajax, battu 2-0 à domicile par l'Inter de Milan. 8 autres matchs seront au menu à demain matin pour nous. L'Atalanta Bergame recevra le club de Bruges. Les Kazakhs du Kiryat Almaty recevront le Real Madrid. L'Atlético Madrid recevra les Allemands de l'Eintracht Francfort. Les Norvégiens du Bodo Glimt accueilleront les Anglais de Tottenham. Chelsea recevra le Benfica Lisbonne. Ce sera une des belles affiches de demain. Liverpool sera en déplacement sur la pelouse des Turcs de Galatasaray. Autre belle affiche. À suivre encore Inter de Milan, Slavia Prague et le Bayern de Munich qui sera en déplacement sur le petit pousset de cette Ligue des Champions sur la pelouse des Chypriotes de Paphos. Jeudi matin pour nous, le Paris Saint-Germain se déplacera sur la pelouse du FC Barcelone, ça rappelle des souvenirs, et Monaco recevra Manchester City.
Merci Lionel du sport, il en sera encore question dans le magazine Citoyen dans un petit instant puisqu'avec vos invités vous allez parler de l'USEP, c'est-à-dire l'organisation du sport scolaire dans le premier degré.